Alors, unus pro omnibus, omnes pro uno. Rassurez-vous, j'arrête ici le latin. En français, ça donne, vous l'avez peut-être deviné, un pour tous, tous pour un. Alors, certains pourraient penser qu'il s'agit de la devise des trois mousquetaires, avec D'Artagnan. Mais l'auteur des Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, s'est inspiré d'une devise un peu plus ancienne. Même si plutôt Shakespeare l'avait utilisée en anglais, c'est toujours d'ailleurs, la devise de la Suisse. Et alors, à l'époque, au début du 19e siècle, il y avait eu plusieurs catastrophes climatiques dans les Alpes suisses, et beaucoup de gens avaient tout perdu. Et il y a eu un élan de solidarité nationale assez exceptionnel, d'où l'expression qui en est sortie « un pour tous et tous pour un ». Alors quel rapport entre cette devise suisse de solidarité et le texte du jour, ce texte un peu plus lointain encore, dans le livre du prophète Ésaïe. Alors on va lire ensemble ce texte et le méditer. Et puis je vous invite pendant ce temps de lecture à avoir à garder cette devise en tête. Un pour tous, tous pour un. Nous lisons. Faites votre déclaration et apportez vos preuves. Tenez même conseil ensemble. Qui a fait savoir depuis longtemps ce qui arrive aujourd'hui? Qui l'a révélé à l'avance? N'est-ce pas moi le Seigneur? À part moi, il n'y a pas de Dieu. Un Dieu loyal, un Dieu qui sauve, il n'y en a pas, à part moi. Gens du bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car Dieu, c'est moi et personne d'autre. Aussi vrai que je suis Dieu, j'en fais le serment et ma promesse est loyale, je n'y changerai rien. Tous les humains, à genoux, me jureront fidélité. Ils diront de moi, c'est auprès du Seigneur seul qu'on trouve la force et la justice. Tous ceux qui m'auront combattu viendront à moi la tête basse. Amen. Alors on appelle souvent le livre d'Ésaïe le cinquième évangile. Vous savez, il y a les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Ésaïe vient en complément de ces quatre livres. Et dans ce court extrait, finalement, on n'échappe pas à cette appellation de cinquième évangile. On a réellement le message de l'évangile, on a réellement un Dieu qui se révèle, un Dieu loyal, un Dieu qui sauve, un Dieu de justice. Et pour chacune de ces facettes de Dieu que ce texte présente, nous reviendrons bien sûr sur cette devise, un pour tous, tous pour un. Dieu est un Dieu qui se révèle. Et le texte rappelle, qui a fait savoir depuis longtemps ce qui arrive aujourd'hui? Qui l'a révélé à l'avance? N'est-ce pas moi le Seigneur? À part moi, il n'y a pas de Dieu. C'est le Seigneur qui a révélé, et c'est lui qui révèle, mais plus que ça, c'est lui qui se révèle. C'est Dieu lui-même qui se révèle à nous. Et comment est-ce qu'il se révèle? Eh bien, par la parole. Dieu se révèle par la parole écrite, la Bible, ce livre qui nous inspire, ce livre qui nous parle, ce livre qui se lit comme un miroir, qui nous montre à la fois la beauté de la création, le bon qu'il y a dans l'être humain et ses mauvais penchants. Dieu se révèle aussi par la parole prêchée, la prédication, ce temps dans le culte où on essaie de comprendre, de méditer ensemble la parole écrite, un temps où on proclame en Église l'amour et la grâce de Dieu. Dieu se révèle aussi par la parole vécue, le quotidien de chacune et chacun, un quotidien vécu dans la foi, dans le partage. Et je pense qu'on peut tous ici témoigner d'une situation où quelqu'un nous a fait du bien, où le témoignage de quelqu'un, le témoignage de foi, de vie de quelqu'un, nous a encouragés, nous a bénis. Mais Dieu se révèle surtout par la parole incarnée, par le Christ, par l'événement Christ, comme on dit aussi, par l'incarnation. Dieu est devenu semblable à nous. Et pourquoi est-ce que Dieu se révèle ? Bien, la réponse est simple, mais elle est si belle. C'est par amour. C'est par amour que Dieu s'est révélé, que le Créateur a voulu devenir semblable à sa créature, et ce malgré que le fait que l'être humain se soit rebellé contre Dieu. Et ça, eh bien, c'est la plus belle preuve d'amour possible. Et pour qui est-ce que Dieu se révèle ? Eh bien, Dieu se révèle à l'être humain dans son entièreté, à l'humanité tout entière. Dieu se révèle à chacune et chacun d'entre nous, où que nous en soyons dans notre vie, quoi que nous ayons fait ou pas fait, Dieu se révèle à nous tous, un pour tous. Et est-ce qu'en Église, on pourrait répondre à cette révélation ? Est-ce qu'en Église, on pourrait prendre à nouveau pour nous cette révélation, continuer à la vivre dans notre quotidien, être sel et lumière là où nous sommes, là où nous vivons, où l'Église se rassemble au culte et où l'Église se disperse ? Est-ce que c'est pas ça, finalement, vivre tous pour un, tous pour Dieu et tous pour notre prochain ? Alors Dieu est aussi un Dieu loyal. Le texte le précise, hein, « À part moi, il n'y a pas de Dieu, un Dieu loyal. Aussi vrai que je suis Dieu, j'en fais le serment et ma promesse est loyale, je n'y changerai rien. » Dieu est loyal, il est fidèle. Alors il est fidèle à lui-même, mais il est aussi fidèle envers nous. Il ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et c'est un Dieu qui prête serment, qui promet, autrement dit, qui fait alliance. Un Dieu qui a fait alliance avec nous, avec l'humanité, par son Fils Jésus. Et la loyauté et la fidélité sont d'ailleurs des caractéristiques de Dieu qui ont marqué le réformateur protestant Jean Calvin. Vous savez, on est dans cette période de la fête de la Réformation, c'était le 31 octobre, et Jean Calvin faisait le constat, après plusieurs années de vie, que parmi ses amis, personne n'avait été toujours loyal envers lui. Et il en déduit donc que l'homme ne peut pas être fidèle d'une manière parfaite, et que donc c'est Dieu qui l'est. Alors même si Calvin est allé encore plus loin, peut-être même trop loin, il a le mérite d'avoir relevé cette notion de fidélité. Cette notion de fidélité de Dieu malgré les circonstances, malgré nous. Et ça, c'est important. D'ailleurs, ça nous arrive parfois d'accuser Dieu pour nos problèmes ou à minima de lui en vouloir parce qu'il ne fait rien. Il ne fait rien dans la situation tragique dans laquelle on est. Mais ici, il nous faut comprendre que c'est le fait que l'homme ait rejeté la présence de Dieu qui fait que Dieu n'a pas enlevé ou n'enlève pas l'injustice dans notre monde. Et avant ce qu'on appelle la chute, cette rébellion de l'homme contre Dieu, où la créature que nous sommes s'est prise pour le Créateur, eh bien, il n'y avait pas d'injustice. Aucune. Parce que Dieu, en plus d'être loyal, il était présent de façon totale. Eh bien, et cette présence de Dieu, elle est provocatrice de paix, de justice, de guérison. Et cette paix, cette justice, eh bien, elle sera totale, permanente, au retour du Christ. Et c'est dans cette attente que nous vivons. Mais que l'homme est aussi quelque peu livré à lui-même. Mais il y a un espoir, et c'est le fait que Jésus soit devenu homme, comme nous. Dieu est fidèle, il est loyal envers nous tous, envers l'humanité, un pour tous. Et alors, est-ce qu'en Église, malgré nous, malgré nos mauvais penchants et notre incapacité à être fidèles de façon parfaite, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même aller de l'avant et renouveler toujours à nouveau notre serment de fidélité envers Dieu? C'est d'ailleurs ce qu'exprime le baptême. Mais aussi notre serment de fidélité les uns envers les autres. Être fidèle dans l'amour envers notre prochain. Et est-ce que c'est pas ça? Aussi vivre tous pour un, tous pour Dieu et tous pour notre prochain. Et Dieu est aussi un Dieu qui sauve. Un Dieu qui sauve, il n'y en a pas par moi. Jean, du bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car Dieu, c'est moi et personne d'autre. Dieu est un Dieu qui sauve et il est le seul à pouvoir le faire, comme le texte le rappelle, c'est moi et personne d'autre. Parce que l'homme, dans son orgueil, a pensé qu'en devenant l'égal du Créateur, il pourrait se passer de Dieu, il pourrait devenir peut-être lui-même Créateur. Et c'est ça dont il est question ici. Il n'y a personne d'autre, dit Dieu, même pas vous, êtres humains. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Autrement dit, à cause de votre fait, de votre faute même, vous ne pouvez pas vous passer du salut de Dieu. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter cette main tendue par Dieu à revivre dans sa présence. C'est ça le salut de Dieu, et c'est ce qu'il est venu proclamer, vivre, annoncer, quand il est venu vivre sur terre en montrant l'exemple, en se sacrifiant à la croix, en ressuscitant d'entre les morts et en annonçant son retour. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur terre pour nous sauver. C'est le message qu'on entend chaque année à Noël, qui arrive bientôt. C'est même ce que son prénom veut dire. Jésus, celui qui sauve. Et Jésus est venu sauver l'humanité d'une mort certaine, d'une vie où Dieu serait complètement absent, d'une vie où l'homme serait complètement livré à ses mauvais penchants et où il n'y aurait plus de bon en lui. Vous imaginez ce que ce serait? Un enfer? Dieu est un Dieu qui sauve, un Dieu plein d'amour, capable d'aimer ceux qui l'ont rejeté. Et nous avons tous nos défauts, nos mauvais penchants qui parfois nous rattrapent. Nous avons tous en tête ces temps où ce que nous avons fait, eh bien, nous voudrions ne jamais l'avoir fait. Peut-être qu'on pense que Dieu ne mérite pas du tout nous avoir près de lui. Ou peut-être qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être près de lui. Mais ce que nous avons fait ou pas fait, c'est pas la question. C'est pas la question puisqu'il y a un salut possible pour tous, une issue possible, un chemin. Et c'est Jésus. C'est un chemin de vie, un chemin vrai. Et ce salut de Dieu, il est pour tous, et le texte met l'accent sur ceux qui sont auprès du prophète, mais aussi ceux qui sont au loin, gens du bout du monde. Le salut de Dieu, don gratuit et accessible à toute l'humanité, offerte Eh bien, par le sacrifice d'un seul, Jésus, un pour tous. Et est-ce qu'en Église, on pourrait répondre à nouveau à ce salut de Dieu? Est-ce qu'on pourrait y répondre en continuant notre vie à la suite du Christ? Pour celles et ceux qui ont peut-être des années, des dizaines d'années de vie de foi. Et puis, peut-être nous mettre en chemin pour celles et ceux qui découvrent la foi. Ce salut de Dieu peut être vécu en Église. Tous pour un, tous pour Dieu et tous pour notre prochain. Et puis, dernière caractéristique, Dieu est un Dieu de justice. Le texte rappelle, ils diront de moi, c'est auprès du Seigneur seul qu'on trouve la force et la justice. Dieu est juste, il est lui-même la justice. C'est auprès de Dieu qu'on trouve la justice, et de la même façon, quelque part, que pour le salut, c'est auprès de Dieu uniquement qu'on trouve cette justice, parce qu'il est, il incarne lui-même ce qu'est la justice. Et là, il n'y a pas de meilleur mot que ceux qu'on trouve aussi dans le livre d'Ésaïe, un petit peu plus loin, au chapitre 61, où le prophète dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais, et aussi de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. J'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. » C'est d'ailleurs un texte que Jésus reprendra pour parler de lui-même. Dieu est un Dieu de justice, même si on vit dans un monde rempli d'injustices, de tous côtés, dans tous les pays, dans toutes les situations économiques, sociales, familiales, professionnelles. Dans l'Église, on trouve de l'injustice. Et on se souvient que cette injustice, eh bien, elle est présente parce que l'homme s'est retiré de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que l'espérance des chrétiens, eh bien, c'est le retour du Christ, un retour où Dieu essuiera toute larme, où il n'y aura plus de deuil, où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de domination des uns sur les autres, plus de guerre, plus de violence, plus de racisme, plus de sexisme, plus d'homophobie, plus de jalousie, et la liste est encore longue. Dieu est un Dieu de justice pour tous, pour tous les défavorisés, pour les minorités, les faibles, mais aussi pour tous les favorisés de ce monde, pour toutes les majorités, pour tous les forts. Dieu est justice pour tous, un pour tous. Et est-ce qu'en Église, on ne pourrait pas continuer à vivre au plus près de cette justice, à suivre le Christ, lui-même chemin de justice, à partager autour de nous l'amour de Dieu dans le concret, dans le tangible, pour tous ceux qui nous entourent, pour ceux qui n'ont rien à manger, pour ceux qui sont rejetés, mis de côté, mais aussi pour les plus forts, pour ceux qui ont beaucoup, aussi pour ceux qui rejettent, qui dominent. L'Église pourrait être alors une étape, un point d'étape, une auberge sur ce chemin de justice. Une auberge qui montrerait au monde la justice, qui montrerait la direction à suivre, vers le Christ. Et cette justice-là, elle peut être vécue en Église, tous pour un, tous pour Dieu, et tous pour notre prochain. Oui, Dieu est un Dieu qui révèle et qui se révèle, un Dieu qui est loyal et qui tient ses promesses, un Dieu qui sauve, un Dieu de justice. Mais qu'est-ce qui fait tenir tout ça ensemble? Eh bien, c'est l'amour, l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu s'est révélé et qu'il se révèle encore aujourd'hui. C'est par amour que Dieu est toujours fidèle à lui-même et envers nous. C'est par amour que Dieu est venu s'incarner pour nous sauver. C'est par amour que Dieu rend justice. C'est par amour qu'il se révèle, qu'il est loyal, qu'il sauve et qu'il rend justice. C'est par amour que Dieu peut dire un pour tous et que nous pouvons répondre par tous pour un, tous pour Dieu et tous pour notre prochain. Amen.